France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
À la fin des années 1980, étaient retrouvés en Chine, sur le site de Yunshan, deux crânes datant d'il y a environ 1 million d'années. Si on attribuait jusqu'à présent ces crânes à Homo erectus, une étude récemment parue dans la revue Science vient semer le doute en les rapprochant cette fois d'Homo longi, une espèce qui serait un proche parent d'Homo sapiens. Cette attribution du crâne de Yunshan 2 à Homo longi contribuerait, on va voir pourquoi, à reculer l'émergence de sapiens à environ 1 million d'années, soit 400 000 ans plus tôt que les estimations actuelles. L'annonce fait légitimement grand bruit, mais l'étude semble largement critiquable pour beaucoup de paléanthropologues. Quelles sont les raisons de cette méfiance vis-à-vis de cette annonce fracassante? Et que nous dit cette controverse sur la mission toujours difficile de classification des espèces appartenant au genre Homo? Amélie Viallet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléanthropologue, maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous avez travaillé sur ces crânes de Yunshan dans le cadre de votre thèse, et évidemment plus tard. Donc vous avez également proposé en 2010 une modélisation 3D de ce crâne de Yunshan 2 qui fait grand bruit en ce moment, autant dire que vous étiez la personne qu'il nous fallait pour nous aider à comprendre pourquoi cette étude récente doit être prise avec beaucoup de pincettes. On va parler d'une période de temps qui est un peu casse-tête pour les paléoanthropologues dont vous faites partie, Amélie Viallet. Avant de nous plonger dans cette actualité, j'aimerais tout de même qu'on fasse un bref rappel historique sur les découvertes paléanthropologiques importantes qui ont été réalisées en Asie et plus particulièrement en Chine depuis le XXe siècle. Quelles sont ces grandes découvertes qui ont jalonné l'histoire de la paléanthropologie asiatique et chinoise depuis une centaine d'années ?
Ben, c'est vrai que peut-être on ne le sait pas beaucoup, mais finalement, la paléanthropologie, les recherches ont été très actives en Chine bien avant l'Afrique de l'Est. Il y a eu cette ruée vers l'os, hein, comme disait le professeur Yves Coppens, vers l'Afrique de l'Est, mais bien avant, c'est-à-dire dans les années 30, 1930, à partir même quasiment des années 20, c'est là qu'on fait les premières découvertes d'éventuelles présences humaines très anciennes en Chine, pas très loin de Pékin. Ça va être l'homme de Pékin, hein, notamment.
Sinanthropus.
Pékinensis, c'est-à-dire le site en fait de l'homme de Pékin, le site de Zhoukoudian, voilà, qui va être découvert à partir de 1927, va être fouillé jusqu'en 1937, et vraiment à cette époque, on a une petite communauté déjà très internationale, avec des savants voilà, du monde entier, notamment nous on a pour la France, notre représentant c'est Pierre Teilhard de Chardin, qui est sur place, qui justement a lui un petit peu prospecté dans tout le bassin du fleuve Jaune, a une très bonne notion de la géologie du Quaternaire, mais tout ça, c'est des connaissances qu'il a accumulées, qu'il a acquises par son terrain, et donc il devient une référence. Et quand la décision est prise de fouiller le site de Chukutien en 1927, on l'appelle lui comme conseiller scientifique.
C'est un site, Chukutien, qui est particulièrement riche en vestiges. On retrouve, si j'ai bien compris, 183 fossiles humains qui ont depuis été perdus, mais c'est quand même significatif.
Ah oui, c'est un site magistral, parce que en fait, c'est une ancienne grotte effondrée, mais dont on a le remplissage sur à peu près une trentaine de mètres de haut, donc c'est un volume considérable. Et justement, parce qu'il y a déjà cette connaissance, parce qu'il y a voilà, cette équipe internationale, la gestion des fouilles va être assez exemplaire pour l'époque, parce qu'on va fouiller en ayant une espèce de carroyage, de repérage dans l'espace. Donc on fouille par strates, on sait d'où proviennent les fossiles qu'on découvre. Et en effet, les fossiles humains vont être au rendez-vous. Alors pas tout de suite, hein, finalement, le premier crâne, c'est 1929. Mais ensuite, il y a une petite série d'une douzaine de calottes crâniennes plus ou moins fragmentaires, mais qui sont mises au jour avec beaucoup de dents isolées, beaucoup de restes post-crâniens. Donc c'est une très belle série, évidemment, anthropologique, qui tout de suite se montre très primitive, archaïque dans sa morphologie. Donc en effet, va donner lieu à la création d'un nouveau genre, le Sinanthropus pekinensis, voilà, qu'on va globalement ensuite rattacher à ce qu'on a défini un peu plus tard comme Homo erectus.
Alors, du coup, c'est le premier représentant d'Homo erectus, vraiment, ce
Oui, alors, pas tout à fait, parce que de ce fait, quelques années auparavant, sur une petite île en Indonésie, donc l'île de Java, hein, pas très loin de Bornéo, voilà, de l'Australie, dans cette zone de l'Asie du Sud-Est, là on a une autre histoire assez quand même rocambolesque. C'est un jeune médecin hollandais qui est passionné justement de paléontologie, qui a lu les écrits de Haeckel, Darwin, et on est à un moment où on n'a pas encore de fossiles humains, et il comprend par ses textes que c'est dans une zone tropicale, sans doute insulaire, etc., qu'on peut faire des découverte. Et donc, il est hollandais. Et il profite, en fait, du protectorat de la Hollande sur l'île de Java à l'époque pour être muté là-bas. Mmh. Il est médecin militaire sur place, mais il passe son temps, en fait, à prospecter les rives des fleuves, à essayer de trouver des fossiles. Et il les trouve. Ça, c'est incroyable. Et là, on est en 1891. Donc, on est avant Zhou Kudian en Chine. Et là aussi, ce qui me joue, c'est une calotte crânienne, un os du fémur qui est assez comparable au nôtre. D'où l'idée qu'on a cet homme singe qui se tient debout. Donc, il va l'appeler, justement, lui, Pithecanthropus erectus, de station érigée. Et donc, on a, en fait, deux, comme ça, on a deux lieux où, si vous voulez, vont être sur à quelques décennies d'écart, découverts des fossiles assez comparables. Et justement, à partir des années 40, on va commencer à rapprocher ces fossiles qu'on a sur l'île de Java, ces fossiles qu'on a à Zhou Kudian, considérés qu'ils ont quand même beaucoup de caractères morphologiques communs. Ces petits individus, ils ont des calottes crâniennes assez allongées, assez basses, puis ils ont tout un tas de petits caractères, comme un gros bourrelet au-dessus des orbites ou à l'arrière-crâne, etc., qui les définissent bien comme étant donc des Homo erectus.
Si on poursuit donc dans cette histoire de la paléanthropologie en Chine, la période maoïste n'est pas une période dépourvue totalement de découvertes paléanthropologiques et archéologiques.
Voilà, malheureusement, parce qu'en fait, justement, c'est une période pour la Chine de très grande fermeture par rapport à la collaboration internationale. Le pays est vraiment impénétrable jusqu'en 1981, quelque chose comme ça. Et pourtant, sur cette période de temps, il va y avoir quelques découvertes de fossiles qui sont des fossiles un peu clés pour l'évolution humaine. Mais ces découvertes, elles se font à un moment où c'est pas trop la priorité, peut-être scientifique, politique, sur place, mais en plus où il y a vraiment aucun contact avec l'extérieur, avec la collaboration internationale. Et ça, c'est important quand même, parce qu'on a besoin d'avoir, en fait, cette espèce un peu de contrôle les uns sur les autres, mais aussi d'apport de pratiques différentes ou d'interprétations. C'est toujours bien quand ça se fait dans un cadre très ouvert. Or là, justement, on va se retrouver maintenant avec des fossiles, comme le fossile de Dali, dont on reparlera, parce que dans l'histoire d'Homo Longhi, il a son rôle aussi maintenant. Et ce fossile de Dali, il est bien conservé, mais sa provenance stratigraphique, c'est-à-dire dans le gisement lui-même, elle est toujours un peu douteuse parce que le contexte de découverte est un petit peu vague. Donc, si vous voulez, vous avez beau à ce moment-là faire des analyses pour préciser la stratigraphie, par exemple, tant que vous avez un doute sur la provenance stratigraphique, évidemment, vous avez un doute sur le fossile lui-même. Donc, on se retrouve avec des fossiles comme Dali, comme Mappa, qui sont importants, mais pas confortables pour travailler avec, grosso modo. Alors que c'est vrai qu'après les années 81, notamment donc, le professeur Henri Delemley va être un des premiers à retourner en Chine. Et donc, la relation va se retisser, notamment entre la France et la Chine pour la paléanthropologie. Et le site de Yongxian s'inscrit complètement dans ce contexte-là. Alors, on est plutôt dans les années 89, 90, 91 pour les découvertes à Yongxian. Mais là, justement, Delemley va pouvoir, avec son équipe, travailler avec les collègues chinois sur place et au moment des fouilles, en fait, elles-mêmes, donc vraiment sur le terrain, et développer ce qu'on fait maintenant en routine. C'est l'approche pluridisciplinaire pour avoir des datations, des contexte de stratification, et pouvoir bien comprendre l'ensemble du site.
Parlons de l'importance de la découverte de ces crânes de Yongxian. Au moment où elle est réalisée, qu'est-ce que ça change dans l'histoire de la paléanthropologie? Qu'est-ce que ça vient apporter comme élément d'information, en tout cas, l'évolution des espèces appartenant au genre homo?
Oui, peut-être pas tant de choses que ça. En fait, tout de suite, il y a une première étude qui paraît dans Nature, justement, en 92, et qui met tout de suite en avant, quand même, la morphologie de ces fossiles humains, qui n'est pas tout à fait celle qu'on attend, parce qu'ils ont notamment une face qui est une face un peu plate, un peu haute, qui peut être dite moderne, proche de celle des Homo sapiens. Donc en fait, tout de suite, en effet, il y a ce côté qui interpelle, c'est que c'est pas vraiment un Homo erectus, il n'a pas la forme totalement attendue, et on lui donne à ce moment-là une ancienneté assez importante. Mais voilà, on ne pousse pas plus loin, j'allais dire, les conclusions. En revanche, c'est vrai que grâce à cette coopération internationale notamment, on va avoir des bonnes conditions d'études et on va avoir des datations assez précise, alors qu'on peut toujours affiner, il y a des travaux en cours pour essayer d'affiner ça, mais globalement entre, si vous voulez, la faune, les ossements d'animaux qui sont associés, ils sont très nombreux, c'est une très belle faune, entre ces éléments de faune qui vont vous donner une période de temps autour d'un million d'années, parce que le stade de développement de ces espèces est assez caractéristique, et puis les datations qu'on peut faire justement sur les séries de l'uranium à partir des dents d'équidés par exemple, ou bien l'étude qu'on peut faire du paléomagnétisme avec ces grands changements de paléomagnétisme au cours du temps qu'on peut déterminer dans la séquence, tout ça corrobore quand même une datation qu'on peut proposer autour d'un million d'années. Donc là, c'est vrai que dès les années 90, on se se retrouve avec ces fossiles qui sont quand même les plus anciens en Asie continentale et donc notamment en Chine.
Est-ce qu'on peut le décrire plus en détail ce site, parce que ça a son importance, cette sédimentation sur les fossiles en eux-mêmes?
Exactement, oui, c'est ça la clé tout à fait. C'est que c'est un site fabuleux. Parce que c'est un bord de fleuve, hein, c'est une ancienne terrasse fluviatile. Donc aujourd'hui, en fait, elle se retrouve un peu perchée, hein, parce que le fleuve s'enfonce au cours du temps. Et donc, il faut imaginer ces fleuves à grande dynamique. Hein, on est à un endroit un peu de méandre. Donc à un moment, le fleuve a dû charrier en fait une espèce de crue d'événements catastrophiques et a dû embarquer des carcasses animales et même des humains, hein, puisqu'on a deux crânes bien complets, et les a donc déposés sans doute sur ce méandre, à cet endroit un peu plus calme. Donc, les carcasses vont s'entasser là, y compris, en effet, ces deux crânes humains. Chaque ossement est quand même baigné quand même dans cette eau, donc acquiert une certaine plasticité. Et en effet, après, ça va sédimenter au-dessus. Et ça va sédimenter, bon, c'est la Chine, hein, les phénomènes géologiques sont de grande ampleur, donc c'est 12 mètres de sédiment qui va venir peser pendant au moins 1 million d'années.
Et malaxé comme voilà, de la pâte à modeler ces crânes-là.
Surtout appuyé sur des éléments un peu plastiques. Et donc il y a une forme aussi de compaction qui a lieu, qui fait que vous avez une espèce de grosse gangue de concrétion autour de ces ossements. Ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, vous les retrouvez bien, parce que quand vous tombez sur ces grosses gangues un peu informes, vous savez que dedans il y a des ossements. Et c'est comme ça que les collègues chinois très récemment, puisque les fouilles sont toujours en cours de ce site, en 2022, ils ont très tôt identifié qu'ils étaient en train de découvrir un troisième crâne humain. Donc, évidemment, c'est un site fabuleux parce qu'on a déjà deux crânes maintenant, trois crânes humains, et ils sont assez complets. En revanche, ils sont très déformés puisque cette plasticité, cet empilement de couches, etc., ce poids pendant 1 million d'années a fait qu'ils sont aplatis.
Alors, Amélie Viella, en quoi cette déformation est cruciale à comprendre en quoi est-elle cruciale finalement dans le débat qui se joue aujourd'hui autour de ce crâne de Yunxian 2?
Eh bien, parce que on a les outils aujourd'hui, et depuis ma thèse qui remonte déjà maintenant à une vingtaine d'années, mais à l'époque c'était un peu le début, on utilisait en fait la tomographie, c'est-à-dire les rayons X, hein, comme le scanner qu'on passe à l'hôpital. Maintenant on a des micro scanners, donc à très haute résolution, et on utilisait l'imagerie 3D, donc virtuelle, pour pouvoir virtuellement, c'est-à-dire sans toucher les originaux bien sûr, rétro-déformer, c'est-à-dire compenser les altérations, les déformations, les fractures sur le spécimen en question.
Cette compensation, c'est déjà une forme d'interprétation finalement.
Exactement. C'est totalement lié. C'est-à-dire qu'en fait, il vous faut trouver les moyens. Donc moi, j'ai travaillé sur le crâne de Yunxian 2, qui est l'objet de la nouvelle étude, parce que justement, on a considéré que c'était le moins déformé. Parce que le crâne Yunxian 1, je pense que la face est très bien conservée, ce qui est très important, il faudrait y revenir. Mais le crâne, lui, est complètement aplati. Il fait à peine 10 cm de haut, donc c'est vraiment une crêpe, comme on dit. Voilà. Donc on a travaillé sur Yunxian 2 parce qu'il semble mieux conservé. Mais ceci dit, il est aplati. Donc, le crâne étant aplati, vous allez forcément lui redonner une forme un petit peu plus globuleuse. Mais où est-ce qu'on s'arrête? C'est de la déformation plastique. Donc, comment est-ce qu'on rétro-déforme ce... Donc, il vous faut trouver, en fait, les arguments qui vont vous donner les limites un peu des manipulations que vous allez faire. Et donc, déontologiquement, quand vous travaillez à reconstitution, il faut absolument que vous argumentiez chaque étape et que vous documentiez chaque étape pour que chacun puisse apprécier, en fait, ce que vous avez fait comme choix, et aussi puisse un petit peu apprécier les limites, en fait, de votre proposition. Et une reconstitution, c'est toujours une hypothèse. Et dans le cas présent, dans la nouvelle publication, en fait, il y a une reconstitution avec vraiment des moyens techniques qui sont spectaculaires et qui, à mon avis, font un peu illusion, parce que il y a des choses très simples, par exemple, comme ces fossiles sont des pierres, vraiment des pierres, ils ont totalement fossilisé. Heureusement, Yunxian 2, par exemple, était sans doute rempli de ce sédiment alluvial, et l'ensemble de ce sédiment, avec le crâne, avec l'os, le tout a sédimenté ensemble, c'est pour ça que ça s'est conservé. En fait, Yunxian 1 devait être moins rempli de sédiments et le crâne s'est complètement aplati. Et donc, ce sont devenus des pierres. Donc, que vous utilisiez, si vous voulez, du rayon X conventionnel ou à haute résolution, en fait, vous avez une limitation qui est physique. Et les rayons X, ils n'arrivent pas à pénétrer la pierre. Et quand ils la pénètrent, le coefficient d'atténuation, il n'est pas terrible.
Alors, Amélie Viella, avant qu'on en vienne à cette étude toute récente qui fait beaucoup parler d'elle. Vous, vos travaux, quelles conclusions vous en aviez tirées et qu'est-ce que ça vous avait permis finalement de faire comme catégorisation de ce crâne de Jungsian 2? À quelle famille du genre homo l'aviez-vous rattaché à partir de ce travail de modélisation 3D?
Donc, alors, pour répondre simplement à Homo erectus, mais il faut nuancer un petit peu parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'ai comparé justement le fossile dans son état actuel, hein, déformé, tel qu'il est conservé, avec d'autres Homo erectus autant que possible. Et j'ai pu montrer comme ça quelles étaient les parties en fait, du crâne, les parties de la voûte. Hein, j'ai travaillé segment par segment pour voir les parties qui rentraient dans la variabilité erectus. Donc je me suis dit, bon, bah, ça, c'est des parties pas trop déformées. Et puis les parties qui sortaient complètement de la variation. Et là, si ça sort complètement de la variation, il y a deux possibilités. Soit c'est en effet artificiellement déformé par l'histoire de fossilisation, soit bah, c'est le petit caractère particulier de ce fossile qui sort complètement de sa variation Homo erectus. Voilà. Donc là, il a fallu faire des choix à chaque fois. Moi, j'étais quand même assez convaincue que c'était un Homo erectus. Il a 1 million d'années, il a quand même une forme globalement basse, allongée, etc. Et je dois avouer, et je le cite en exemple à mes étudiants quand j'enseigne, je dois avouer que 20 ans après, j'ai plus tout à fait la même idée. Et je me rends compte qu'en fait, c'est parce qu'il y a 20 ans, eh ben en fait, il y avait une séparation assez nette entre les travaux qu'on faisait en Europe de l'Ouest, on va dire, hein, et puis tout ce qui se passait en Asie, et que ben, on comparait pas beaucoup les formes entre elles d'Asie et d'Europe, en fait, où on n'allait pas jusqu'au bout en fait des interprétations ou des résultats qu'on obtenait de ces comparaisons. Donc il y avait quand même deux mondes séparés. Ouais. Voilà, et ça, c'est il y a 20 ans, on ne s'en rendait pas forcément compte. Et donc, moi, je vois, par exemple, dans l'échantillon de comparaison que j'ai utilisé que des Homo erectus asiatiques. J'ai très peu travaillé avec des comparaisons avec les Européens, par exemple.
Voilà. Il y a 20 ans aussi, Amélie Viallet, on n'avait pas encore découvert l'homme de Denisova. On va voir que ça a son importance aussi dans cette compréhension et dans ce réexamen, finalement, du crâne de Jungsian 2. Cette étude-là, donc, est parue récemment dans la revue Science. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment cette équipe internationale, mais composée beaucoup de chercheurs chinois, va finalement essayer de réécrire du coup l'histoire de Jungsian 2?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a deux grandes parties dans cette étude. Il y a la partie reconstitution, donc il y a une nouvelle reconstitution de Jungsian 2 qui est proposée, avec, je vous disais, des moyens techniques importants. Mais justement, moi je pense que ce qui manque beaucoup, c'est l'argumentation des choix qui sont faits. Il y a un exemple très précis, et c'est vrai qu'il faut peut-être avoir vu manipuler ses crânes pour focaliser là-dessus, mais je pense que c'est déterminant. C'est quand vous regardez le front de cet individu, il y a deux parties. Il y a une partie aplatie, et puis il y a une partie de l'écaille, on dit l'écaille frontale, donc la partie gauche, est surélevé. Tout de suite, vraiment, vous posez la question, vous dites laquelle est la bonne. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, il faut que la partie aplatie soit surélevée pour coller avec la partie surélevée et qu'on ait donc un front un petit peu convexe, ou est-ce qu'au contraire, cette partie convexe, c'est celle qui a été artificiellement surélevée et qu'il faut la rabaisser? Moi, c'est ce que j'avais démontré, que justement, ce crâne, enfin, cette partie du crâne n'était pas convexe. Or, c'est un critère pour l'évolution qui est déterminant. C'est un critère déterminant parce que si vous avez un front aplati, c'est plutôt un caractère primitif, donc on va dire Homo erectus. Et si vous avez un front qui est convexe, ça tend à notre front à nous qui est complètement vertical, qui est donc plutôt, on va dire, Homo sapiens. Là, dans la reconstitution qui est proposée, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas parce que ça n'est pas expliqué quel est le choix qu'ils ont fait. Et on a même essayé de superposer un peu les images, etc., pour essayer de comprendre les manipulations qui avaient été faites. Et ça n'est pas très clair. Ça n'est vraiment pas clair. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont quand même conservé la convexité de l'écaille frontale. Donc après que dans leurs analyses, ce fossile tombe plutôt proche des Homo sapiens, c'est pas étonnant si, quelque part, on l'a un peu reconstitué en favorisant ces caractères.
On en vient justement à ce que je disais en introduction de cette émission. Ce réexamen du crâne de Jungsian 2 vieillirait de plus de 400 000 ans l'émergence d'Homo sapiens. Voilà, les grands titres les grands titres peu scrupuleux justement ont tout de suite crié, voilà, en disant Homo sapiens aurait 1 million d'années. Alors, comment, à partir de ce réexamen de Jungsian 2, peut-on dire que Homo sapiens serait, parce que là le conditionnel est nécessaire, plus vieux que ce qu'on croyait?
Alors, donc, c'est la deuxième partie de l'étude, qui est une étude, on appelle ça phylogénétique, c'est cladistique, c'est-à-dire c'est vous observez les caractères, alors morphologiques, les dimensions, etc. Vous faites toute une matrice de caractères que vous allez observer sur différents crânes, et vous codez l'expression de ces caractères, hein, où vous transformez le métrique en non métrique, etc. Enfin, il y a toute une méthodologie pour ça. Et justement, il y a des choix qui sont faits à chaque étage. Parce que vous choisissez les caractères, vous choisissez de les coder en 0, 1, 2, 3, 4. C'est pas pareil si vous les codez que en 0, 1 et en 0, 1, 2, 3, 4. Parce que si vous avez plus de catégories, forcément, vous avez une expression d'une plus grande variabilité. Or là, ils ont tout codé en 0, 1. Donc ça limite énormément, ça contraint énormément. Et puis, dans cette analyse, par exemple, on va avoir à la fois des restes crâniens, mais aussi des restes mandibulaires. Moi, je trouve que c'est très étonnant dans une analyse de pouvoir avoir des caractères sur le crâne et sur la mandibule. Jungsian n'a pas de mandibule, par exemple. Or, il se retrouve pas loin de fossiles comme Xiae, qui est une mandibule. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est possible parce qu'en fait, on va coder des caractères comme étant manquants. Mais du coup, ces caractères manquants, ils ont un certain poids dans l'analyse. Et en fait, vous allez comme ça contraindre un petit peu ou si vous voulez biaiser un petit peu les résultats. Alors, moi, j'aime la cladistique, je pense que c'est une bonne approche, hein, c'est intéressant. Il faut pas, en revanche, prendre les résultats pour argent comptant, c'est bien ça. Il faut pouvoir les mettre un peu en perspective, les nuancer. Et donc, pour ça, il faut un petit peu comprendre comment l'analyse a été menée. Et je trouve que, justement, là, les résultats sont quand même très peu mis en perspective.
Ces résultats-là, du coup, comment, j'en viens à ma question, Amélie Vialet, comment ils réécrivent, d'une certaine façon, le passé extrêmement lointain de l'émergence d'Homo sapiens, puisqu'il n'est pas question d'Homo sapiens. Là, on n'attribue pas ce crâne de Jungsian 2 à Homo sapiens, on le rappelle, mais comment ça conduit les chercheurs à dire bah, peut-être que Homo sapiens aurait émergé plus tôt.
Donc là, il nous faut passer par Homo longi.
Autre découverte.
Voilà. Et Homo longi, bah, c'est encore une découverte un petit peu étonnante. Hein. C'est le crâne de Harbin qui a été redécouvert tout d'un coup parce qu'il avait été caché.
En 2018.
Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un crâne assez complet, très bien conservé, qui a pu être, grâce vraiment au progrès scientifique, méthodologique, analytique actuel, a pu être daté parce qu'il restait un petit peu de concrétion sur le crâne. Donc on a un peu son ancienneté autour de 150-200 000 ans. Voilà. Donc c'est une très belle découverte, même si là encore, bah voilà, elle manque beaucoup de contexte. Hein. Et donc ce crâne a été décrit par une partie de la même équipe que celle qui signe l'article de Science aujourd'hui. Et donc, elle a été décrite sur la base aussi d'analyses pareilles phylogénétiques comme représentant d'une nouvelle espèce, c'est-à-dire Homo longi. C'est quelque chose qu'on peut déjà un petit peu critiquer pour les mêmes raisons. Hein, c'est-à-dire, dans une analyse phylogénétique, on met certaines choses, il y a des limites, etc. Finalement, on ne dit pas assez en fait que c'est une hypothèse et que, voilà, à partir de là, on peut réfléchir et ouvrir la discussion. Et en fait, moi, ça m'a étonnée parce que ce crâne de Harbin, il est très proche du crâne de Dali, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, qui a été trouvé dans les années 80. Et pourtant, dans leur argumentaire, ils essaient d'expliquer que c'est pas tout à fait le cas et qu'en fait, il ne faut pas tenir compte de Dali. Et donc, dans cette Homo longi, on ne met pas Dali, alors que vraiment, les fossiles semblent assez proches. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que si on avait intégré Dali, les collègues chinois étaient obligés de se conformer à la nomenclature zoologique internationale qui veut que s'il existe déjà un nom d'espèce, il faut l'utiliser. Mmh. Et Dali avait déjà été décrit, parce que c'est un spécimen quand même un peu particulier, comme étant un Homo daliensis. Et donc, il aurait fallu utiliser ce nom d'espèce. Voilà. Donc déjà, il y a tout ça qui est un petit peu complexe. Et finalement, bah, quand on prend un peu de recul, justement, moi, dans les années 2000, bah, j'étais en plein dans cette littérature de controverse sur ce que pouvaient être ces fossiles, Dali ou Harbin, ces fossiles voilà, autour de 200 000 ans, on va dire, et qui, en fait, ne sont pas strictement des Homo erectus, parce qu'ils ont un crâne beaucoup plus développé. Ils ont voilà, une morphologie un petit peu différente, mais ils restent quand même un peu primitifs. Donc en fait, tout ce qui n'était pas erectus tombait dans un paquet qu'on appelait, alors on les appelait soit des Homo erectus évolués, soit on les appelait des Homo sapiens mais archaïques.
Erectus, il faut quand même dire que ça couvre un champ temporel qui est colossal. Voilà. Ça va de 1 million d'années à 100 000 ans. C'est vaste, c'est une grosse fourche.
Oui, oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, notre travail, ça va être beaucoup de revoir cette notion d'Homo erectus. Et je pense qu'il faut... Alors, vous savez, il y a le grand moment où on va faire des synthèses et essayer de minimiser le nombre d'espèces. Il y a des moments où, à l'inverse, on multiplie, c'est les splitters, les lumpers. Et là, il va falloir justement un peu splitter, c'est-à-dire qu'il va falloir un peu séparer, je pense, ce gros paquet erectus en petits paquets. Il y en a qu'on a déjà bien identifié. On a parlé de Zoukoudian, on a parlé des fossiles de Java. Ça, c'est quand même un groupe qu'on peut attribuer aux Homo erectus, on peut en faire un ou deux, insulaires et continentaux, voilà, ça c'est les Homo erectus. Et donc, avant, il y a le fossile, par exemple, de Jungsian, autour d'un million d'années. Moi, j'avais montré qu'il était plutôt erectus, je revois un petit peu ma copie, si je puis dire, mais en tout cas, ce que je voudrais surtout dire, c'est que je pense que c'est pas strictement un Homo erectus, voilà, c'est pas strictement un Homo erectus, ça ne fait pas de lui non plus un Homo sapiens, mais c'est pas strictement un Homo erectus, parce que c'est vrai qu'il a pas tous les petits caractères justement qu'on trouve à Zoukoudian ou à Java. Et puis après, en plus récent, on a les Dali, Harbin, etc., qu'on mettait dans ce paquet, on va dire, les Erectus évolués ou Sapiens archaïques, qui maintenant se trouvent dans cette espèce redéfinie Homo longi. Avec les ponts qu'on fait donc avec Denisova.
Hein. Voilà, parce qu'il y a deux études quand même récentes parues dans la revue Cell et Science cet été, la 2025, qui attribuent justement, enfin qui associent Harbin au Denisovien.
Voilà, donc là aussi ça se fait, alors, il faut décomposer la chose, ça se fait par l'entremise de la protéomique. Donc l'analyse protéomique qui va permettre de démontrer que il y a une relation entre la mandibule de Xiae, donc celle du Tibet, hein, et ce fossile justement de Harbin. Donc on met dans le groupe d'Homo longi ce lien où c'est Denisovien.
Mais on en revient justement à l'histoire de Jungsian 2, Homo longi, quelle parenté avec Sapiens, et pourquoi cette étude-là, éclaire selon les chercheurs, l'histoire d'Homo sapiens d'une autre lumière.
Voilà, parce que Homo longi, quand il est publié avec donc Harbin, la proposition qui est faite de cette espèce, est tout de suite, dans l'analyse phénétique, ressort tout de suite comme une espèce un peu sœur d'Homo sapiens. Voilà. Donc on a déjà cette idée un peu sous-jacente, parce que espèce sœur, et comme c'est des fossiles qui sont plutôt, on a dit, autour de 200 000 ans, etc., on a un peu l'idée sous-jacente qu'il puisse y avoir quand même une alors c'est pas une origine des Homo sapiens en Chine, c'est plutôt une histoire d'évolution un peu réticulée, c'est-à-dire que depuis cette souche africaine, il y a beaucoup d'hybridation avec les Homo erectus locaux, les populations locales, voilà, et donc il y a cette émergence des Homo sapiens en Chine via cette
homologie. Donc du coup, il y aurait une souche chinoise d'Homo sapiens, c'est ça à peu près ce que cherchent à prouver ces chercheurs.
C'est à peu près l'idée. Alors là, on en était là quand on avait que Harbin dans Homo longi. Comme cette analyse phylétique telle qu'elle est menée, elle place dans le même groupe, dans le même clade, Jungsian, qui lui a un million d'années, ça leur permet de montrer que cette Homo longi s'enracine il y a un million d'années. Et comme ils font des calculs, mais là encore, ce sont des probabilités, c'est une proposition qui est faite pour essayer de voir ces dates de divergence dans ces différentes lignées, dans ces différents clades, eh bien, ils calculent que ces ancêtres communs entre Homo sapiens et Homo longi ont dû vivre entre 1,3 million et 1 million d'années. Donc, c'est le fossile de Jungsian.
Alors, merci beaucoup à vous, Amélie Vialet, de nous avoir exposé les raisons de cette controverse. On peut penser aussi éventuellement à des raisons peut-être plus politiques, de soft power, éventuellement, dans cette quête d'une origine de sapiens en Chine. Si vous voulez y voir plus clair dans toutes ces familles du genre homo, on peut aussi écouter un excellent podcast en 8 épisodes produit sur France Culture par Franck Bessière et réalisé par Nathalie Battus. Amélie Vialet, vous êtes la conseillère scientifique de ce podcast et la narratrice de ce podcast intitulé Retour vers la préhistoire. C'est à écouter, bien sûr, sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Merci à nouveau Amélie Vialet d'être venue nous parler de cette controverse.
Merci à vous.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.